On a commencé la semaine dernière une série biblique dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Nous y retrouvons les descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob qui sont maintenant en Égypte. Et après avoir été sauvés au moyen de l'Égypte comme une source de refuge face à une grande famine, ils se retrouvent plusieurs siècles plus tard dans une situation très difficile. Ils ont été maintenant soumis à l'esclavage des Égyptiens qui les ont pris en haine, voyant ces immigrés là qui prolifèrent sur leur territoire. Et on s'est posé la question, mais Dieu a-t-il oublié son peuple? Dieu a-t-il oublié son peuple en Égypte? Et au fil du texte, nous avons vu qu'il était à l'œuvre de façon invisible pour le plus grand nombre. Nous, en tant que lecteurs, on est éclairés, hein, mais de façon invisible en coulisses. Et nous voyons le projecteur se braquer sur un homme, un bébé d'abord, qui va être sauvé d'un décret qui prévoyait que tous les premiers garçons des Hébreux soient tués. Et un Hébreu qui s'appelle Moïse va être épargné, va être sauvé des eaux. C'est la signification de son nom lorsqu'il va être adopté par la fille de Pharaon, qui va trouver cette corbeille où il y avait cet enfant hébreu qui pleurait, elle est émue de compassion. Et c'est ainsi que nous voyons l'histoire de la rédemption commencer. Élevé à la cour de Pharaon, Moïse, devenu grand, prend à cœur la cause de ses frères de sang. Il connaît son identité et il cherche à les libérer. Mais il va le faire à sa manière. Il va un jour vouloir défendre l'un de ses compatriotes qui est maltraité par un Égyptien et tuer cet homme. Et cette situation va s'ébruiter et du coup, ce qu'il avait sur le cœur, de venir en aide à son propre peuple, va échouer. C'est comme une sorte de faux départ. Moïse a ça à cœur. Il y a une conscience qui est là, peut-être, de ce que Dieu l'appelle. On ne sait pas exactement tout ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là. Et on se demande, à nouveau, qu'est-ce qui se passe? Le plan de rédemption divin est-il tombé à l'eau? Alors Moïse va prendre la fuite pour sauver sa vie. Il va partir assez loin en réalité. Il va quitter l'Égypte et il va se rendre dans le pays de Madian. Et là, il va refaire sa vie. Il va rencontrer ceux qui vont devenir sa famille. Il va épouser une femme. Il va avoir un enfant. Il devient père. Et il nomme son premier-né Gershom, qui veut dire émigré en ces lieux. Il refait complètement sa vie. Les choses ont tourné tout à fait différemment. Et nous nous retrouvons à ce moment-là et nous lisons ensemble maintenant dans le chapitre 3 de l'Exode et dans les Bibles rouges de l'Église qui sont sur vos sièges. Ça sera en page 64 dans la première partie de la Bible. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, « Je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. » L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» « Je suis là, » répondit Moïse. Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? Sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Jusqu'ici notre lecture de la parole de Dieu. Qui est ce Dieu ? Qui est Dieu ? À quoi ressemble Dieu ? Tout le monde se fait son idée d'une manière ou d'une autre sur Dieu. Certains vont dire « je pense que Dieu est comme ci, je pense que Dieu est amour, je pense que Dieu est saint, je pense que Dieu est transcendant ». D'autres vont dire « personne ne peut vraiment m'imposer qui est Dieu, c'est moi qui définis mon Dieu, je prends le meilleur de ce que j'entends dans telle ou telle philosophie, telle ou telle religion, et c'est ça, Dieu, pour moi ». Les chrétiens aussi, parfois, peuvent se faire leur propre Dieu, entre guillemets, lorsqu'ils mettent de côté certains aspects qu'ils aiment moins dans le Dieu de la Bible. Sa souveraineté, il est tout puissant, il détermine la destinée de tous. Ah, j'aime pas trop cette notion-là, Dieu souverain. Sa justice, peut-être ses exigences en matière d'éthique, en matière de moralité, de sexualité, de plein de choses. Et à ce moment-là, c'est une manière aussi de se faire son Dieu. Mais comme le dit Tim Chester dans son commentaire sur ce passage, Dieu n'est pas un concept malléable à souhait. Dieu est. Il est une réalité, la réalité ultime. Je suis celui qui est. Verset 14. Dieu se définit lui-même. Il détermine et déclare qui il est et ce qu'il fera. C'est Dieu qui le fait, ce n'est pas notre imagination. Quand nous sommes en présence du vrai Dieu, nous découvrons qu'il est à la fois plus terrifiant et plus aimant que nous n'aurions imaginé, infiniment plus que n'importe quel Dieu de notre invention. Fin de citation. Alors j'aimerais qu'on puisse voir ensemble au travers de ce texte aujourd'hui qui est Dieu. Notre compréhension du Dieu de la Bible se forge en particulier dans l'Ancien Testament sur ce passage-là de rencontre de Dieu avec Moïse où il révèle un peu plus de qui il est. Et la première chose qui nous est révélée, c'est que Dieu est le Dieu transcendant, le Dieu qui est saint, le Dieu qui est au-dessus de nous. Moïse fait une rencontre extraordinaire et l'ange de l'Éternel, nous dit le verset 2, lui apparaît. Au milieu d'un buisson tout embrasé mais qui ne se consume pas, il y a un phénomène là extraordinaire, surnaturel. Et on voit Dieu qui se révèle au milieu du feu, qui s'auto-suffit. Et puis on entend la voix. Il entend cette voix, Moïse qui vient du buisson. Dieu lui parle, et Dieu commence par lui dire que ce lieu est saint. Ôte tes sandales. C'était une marque dans les pratiques orientales de rester, de se déchausser. Le lieu n'est pas sacré d'une façon magique ou quoi. Pourquoi ce lieu est saint ? Parce que Dieu est là. C'est sa présence qui rend ce lieu saint. Dieu est présent. Et du coup, Moïse se couvre le visage parce qu'il a peur de voir Dieu. La Bible nous dit « Personne ne peut voir Dieu et vivre ». Il est ce Dieu saint, ce Dieu que nul ne peut approcher n'importe comment. C'est déjà la première facette que l'on voit. Puis, on voit dans le fil du texte quelque chose qui peut paraître paradoxal avec ce qu'on vient de dire, mais ce Dieu saint, sans péché, pur, au-dessus, pleinement de nous, complètement autre, on voit un Dieu bienveillant, un Dieu présent au milieu de nous. Relisons ensemble les versets 7 à 9. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. » Verset 9, « À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. » On a tous ces verbes qui nous décrivent Dieu à l'heure, Dieu qui est préoccupé de son peuple. J'ai vu. Dieu semble absent, Dieu est invisible, donc pour certains, Dieu n'est pas là. Et c'est peut-être ce que peuvent se dire les Israélites soumis à un rude esclavage. Où est Dieu? Dieu a-t-il disparu? Dieu a-t-il oublié ses promesses? J'ai vu, il voit. J'ai entendu les cris. On ne sait pas si les Israélites poussaient des cris en direction de Dieu. Est-ce qu'ils espéraient, est-ce qu'ils appelaient Dieu à l'aide, ou ils poussaient juste des cris de douleur, des cris de colère, on ne sait pas. Mais en tout cas, Dieu a entendu ces cris. Je sais. Parfois, dans la souffrance, dans l'épreuve, on peut se dire, mais est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu entend? Est-ce que Dieu sait? Est-ce que Dieu a quelque chose à faire de ma vie qui est en train de basculer, qui est difficile? J'ai vu, j'ai entendu, je sais ce qu'il souffre. Et je suis descendu pour venir le délivrer. C'est un Dieu dont la compassion le pousse à l'action. On a vu dans la première prédication que le temps semblait long. Et lorsque vous lisez les quelques derniers versets du chapitre 2, alors que Moïse a dû prendre la fuite, il y a une petite phrase où il est dit « Beaucoup de temps passa ». Et la fin du chapitre nous dit que les Israélites souffrent toujours sous cette oppression des Égyptiens. Le temps est long. Le temps semble long. Mais Dieu sait. Dieu a vu. Dieu a entendu. Et maintenant, dans son timing, il a décidé de venir. Ce Dieu saint, il est aussi proche. Il est bon. Et il est miséricordieux. Lisons ensemble la fin de ce texte. Chapitre 3, à partir du verset 13. Jusqu'à la fin. Alors que Dieu vient de lui ordonner d'aller délivrer son peuple, Moïse reprit verset 13, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Puis tu leur diras, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Va donc, réunis les responsables d'Israël et leur, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu et m'a dit, « J'ai résolu d'intervenir en votre faveur au regard du traitement qu'on vous inflige en Égypte. Aussi ai-je décidé de vous faire sortir d'Égypte où vous êtes en proie à l'oppression pour vous conduire dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Yébousiens, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Les responsables d'Israël t'écouteront et tu iras trouver le Pharaon avec eux pour lui dire « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Maintenant, veuille donc nous accorder la permission de faire 3 journées de marche dans le désert pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel notre Dieu. Moi, je sais que le pharaon ne vous permettra pas de partir s'il n'y est pas contraint avec puissance. C'est pourquoi j'interviendrai. Je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous renverra. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens de sorte qu'à votre départ, vous ne vous en irez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui habite chez elle des ustensiles d'argent et d'or ainsi que des vêtements. Vous les donnerez à porter à vos fils et à vos filles et ainsi vous dépouillerez les Égyptiens. Mais revenons à cette première question posée par Moïse. J'irai vers mon peuple, mais s'il demande quel est son nom, ce Dieu qui t'a parlé, qu'est-ce que je leur dirai? Je suis celui qui est, verset 14, le Seigneur. Le verbe tel qu'employé ici en hébreu renvoie à une action qui n'a pas de notion de temps. Ce qui fait que les traducteurs ont beaucoup lutté pour comprendre exactement ce que Dieu signifie ici. Et la déclaration de Dieu, on peut le penser, est volontairement ambiguë. S'il n'y a pas de notion de temps, certains ont compris « J'ai toujours été celui que j'ai été ». Sous-entendu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a agi par le passé, il agira d'une manière cohérente avec ce qu'il a fait pour le passé. D'autres ont compris « Je suis qui je suis ». Qui serait une manière pour Dieu de dire qu'il ne veut pas dire son nom, qu'il y a une part de mystère peut-être. D'autres comprennent « je serai qui je serai » dans le sens que je suis le Dieu qui détermine, qui déterminera le futur. Et peut-être tu le découvriras. Mais les traducteurs vont plutôt favoriser une autre traduction qui est « je suis celui qui est ». Car en verset 14, Dieu parle de lui en utilisant ensuite le nom « Je suis ». Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui est », puis il ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous ». Et donc, c'est ensuite au verset 15 qu'il prend le nom de Yahvé, lorsqu'il est dit « Puis tu leur diras l'Éternel ». Le mot qui est rendu par l'Éternel ici, c'est le mot hébreu qui est retranscrit par ces quatre lettres Yahvé. On a quatre consonnes en hébreu. Et ce mot-là, en fait, est rattaché au verbe être. Il ressemble au verbe être. Et c'est la raison pour laquelle on a des traductions qui vont rendre par l'Éternel, parce qu'il est. Il est pour toujours. Donc certains vont traduire par l'Éternel dans la vie du Seigneur, par exemple. Au fil des siècles, les Juifs ont fini par refuser de prononcer ce nom, parce qu'ils voulaient éviter de l'utiliser de façon blasphématoire, de l'utiliser avec trop de légèreté, et ils ont remplacé ce nom par Adonai, qui se traduit par le Seigneur, ou parfois même par Hachem, le nom, parce qu'ils ne voulaient pas utiliser le nom de Dieu en vain. Et donc, par exemple, lorsque les Juifs vont faire la lecture des textes, lorsqu'on tombe sur ce mot-là, on ne dit pas Yahvé, personne ne dit Yahvé, on dit Adonai. Mais revenons à ce que ça signifie pour nous, c'est ça qui est important. Il n'y a rien de magique ou autre. On veut juste comprendre qui est Dieu et pourquoi il se révèle dans ce « je suis ». Et là, je cite la Bible du Seigneur qui dit « En se présentant comme celui qui est ou je suis, il peut vouloir affirmer qu'il est l'être par excellence. Il ne tient son existence d'aucun autre. » Et il est à l'origine de tout ce qui existe. Il est celui qui existe, je suis, par opposition aux idoles qui ne sont rien et qui n'ont aucune existence réelle. Et c'est là que ça prend tout son sens, c'est que ainsi Moïse peut s'engager dans sa mission avec confiance, malgré la taille de ses adversaires, et on va y venir dans les semaines à venir. Le pharaon, l'homme le plus puissant du monde, ses dieux multiples, ses magiciens, ses armées puissantes, équipées, il peut s'engager dans sa mission puisqu'il a avec lui celui qui est. Fin de citation. Dans d'autres termes, on pourrait dire que Dieu donc se révèle comme ce Dieu éternel et souverain, ce Dieu tout-puissant, au-dessus de tout, et ce Dieu entièrement fiable. À plusieurs reprises dans ce passage, on voit Dieu qui se définit comme le Dieu de leurs ancêtres. Je suis le Dieu de vos ancêtres, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob. On est tourné vers le passé. Mais Dieu n'est pas resté dans le passé. Dieu est toujours le même, il est toujours là. Et c'est la raison pour laquelle on aura, notamment dans l'Apocalypse, cette notion du Dieu qui était, qui est et qui vient. C'est une autre manière de dire « je suis ». Il était, il est, il vient. Il est éternel, il est toujours là. Le Dieu de l'Exode est toujours le Dieu d'aujourd'hui. On est à des milliers d'années d'écart. On a un peu de peine parfois à se rappeler de ça. Il est l'éternel. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire pour nous. Quelque chose d'encourageant, de réconfortant, de merveilleux. De savoir que le Dieu qui a tiré Israël d'Égypte par sa main puissante, par des prodiges, en ouvrant la mer, en nourrissant son peuple au désert, c'est toujours le même. C'est toujours ce Dieu-là qu'on vient adorer. C'est toujours ce Dieu-là dont nous sommes le peuple. C'est toujours ce Dieu qui nous voit, qui nous connaît, qui sait, c'est notre Dieu. Dieu va se définir ensuite, au-delà de ce que nous pouvons apprendre de cette rencontre dans le buisson, dans ce dialogue avec Moïse, dans cette révélation de son nom. Dieu dit, vos ancêtres ne m'avaient pas connu sous ce nom. Je suis celui qui est. Mais Dieu va se faire connaître également dans ses actes de salut. Dieu va se faire connaître au travers de l'histoire qui va s'écrire dans ses pages, dans l'histoire de ce peuple, dans cette histoire de l'Exode. Et plus tard, lorsque les enfants demanderont à leurs parents, les Israélites, les enfants israélites demanderont « Mais pourquoi nous suivons cette loi que Dieu nous a donnée ? Mais qui est Dieu ?» Ils vont pas se lancer dans des concepts théologiques, etc. Qu'est-ce qu'ils font ? Il raconte une histoire. Il raconte l'histoire de l'Exode. On le retrouve à plein de reprises. Dans le Deutéronome, par exemple. Mais aussi dans des psaumes. Qui est Dieu? Dieu se révèle dans une histoire de salut. Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte. Et il nous a délivrés. L'Éternel nous a tirés de là avec puissance. C'est ça, Dieu. C'est lui, Dieu. C'est notre Dieu. Et nous l'avons dit la semaine dernière, mais nous pourrons y revenir en avançant dans le livre de l'Exode. Mais tout ce que nous lisons dans ce récit de l'Exode n'est qu'un avant-goût, qu'une ombre de la libération d'un esclavage bien plus grand à venir, d'un plus grand libérateur. C'est la libération, la délivrance opérée par Jésus sur le péché, sur le mal, sur la mort, à la croix. Tout ça n'est que l'ombre des choses à venir. Dieu se révèle de plus en plus. On parle de révélation progressive en théologie. Qu'est-ce que Dieu est, qui Dieu était pour Noé, pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob? Là, Dieu se révèle de plus en plus et il va se révéler par ses actes de salut. Alors, qui est Dieu? J'ai volontairement donné ce titre pour cette section, alors qu'on pourrait aussi décider de se focaliser sur Moïse. Après tout, il s'agit là de l'appel et de l'envoi de Moïse. Mais j'ai volontairement choisi de me concentrer sur qui est Dieu, parce que c'est ça qui compte ici. Le véritable héros de l'histoire, ce n'est pas Moïse, c'est l'Éternel. Alors on aime toujours à s'identifier aux hommes et aux femmes de la Bible. Et j'aimerais terminer là-dessus en conclusion. Nous allons focaliser sur qui est Dieu au travers de cette histoire, et Dieu va se révéler un peu plus dans l'histoire de l'Exode. Et c'est vrai qu'on peut s'intéresser aussi à Moïse. Et toujours en partant de Dieu, c'est que Dieu, l'Éternel, le Dieu souverain, tout-puissant, le Dieu compatissant, choisit d'œuvrer avec des hommes et des femmes, aussi imparfaits soient-ils. Il faut se rendre compte que l'Éternel, dans sa bonté, ou dans sa folie peut-être, a choisi un homme faible et insécurisé pour accomplir son plan rédempteur, Moïse. Cet homme qui a presque 80 ans, qui est en train de faire paître des moutons dans le pays de Madian, dans la montagne. On est très loin du prince d'Égypte qui était puissant en parole, en actes, élevé à la cour du Pharaon. C'est fini ça. C'était il y a 40 années. Au milieu de tout ça, là, il y a une traversée du désert. Un homme, on ne sait pas ce qui lui reste de ce que Dieu lui avait mis sur le cœur. Et il a tellement besoin d'être rassuré, cet homme. Rassuré par Dieu. Regardez l'avalanche de questions qu'il rétorque à Dieu lorsqu'il l'envoie en mission. Verset 11. Moi, qui suis-je pour délivrer le peuple d'Israël? Qui suis-je? Je suis pas la bonne personne. Ça n'a pas marché. J'ai déjà essayé. On va revenir à la réponse de Dieu à cette première question. Puis ensuite, qu'est-ce que je leur dirai? Je vais leur dire, Dieu m'est apparu, qu'est-ce que je leur dirai s'ils me disent quel est son nom? Je sais pas faire. J'ai pas le don qu'il faut, je suis inapte pour ta mission. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je leur dirai? On l'a pas lu ensemble, mais troisième question, dans le chapitre, début du chapitre 4. Et s'ils ne croient pas, je leur dis que tu m'es apparu, que tu vas les délivrer, que tu as entendu. Et s'ils ne croient pas, j'arriverai pas à les convaincre. Finalement, lorsque cet homme va revenir, qui le connaît? Et même ceux qui le connaissent, qu'est-ce qu'ils savent de lui? Ah, c'est quelqu'un qui a été élevé à la cour d'Égypte, et après il a tué un homme, il a dû s'enfuir comme un fugitif, et on l'a pas revu depuis 40 ans. Alors, pour commencer sa mission, au niveau crédibilité, c'est normal qu'il pose la question au Moïse. Et s'il ne me croit pas? J'arrive, je dis, Dieu m'est apparu. Quatrième objection. Je n'ai jamais eu la parole facile, va-t-il dire. Je ne sais pas parler, je ne suis pas éloquent. Je n'ai pas le don requis. À nouveau, il se déclare inapte. Et enfin, cinquième réaction de Moïse. Ah, c'est une question, mais c'est, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Il est réticent à cette mission. Et à chaque objection, l'Éternel va lui répondre avec bonté, avec patience. Par exemple, s'il ne me croit pas, l'Éternel va lui donner de pouvoir accomplir plusieurs prodiges. Au travers de son bâton, il va se changer en serpent, puis qui va redevenir bâton lorsqu'il va le reprendre dans sa main. Ensuite, il va mettre la main dans son sein et il va avoir une maladie, puis quand il va remettre la main dans son sein, elle sera à nouveau saine. Et puis lorsqu'il touchera l'eau du Nil, elle se changera en sang. Donc Dieu pourvoit à ces questions. Je n'ai jamais eu la parole facile. Dieu lui dit, mais qui c'est qui a créé la bouche? N'est-ce pas moi? Et puis lorsque Moïse insiste, il va finalement pourvoir en disant, mais je vais te donner ton frère Aaron, il sera ton porte-parole. Il va t'aider. Mais arrêtons-nous sur la première question. Moi, qui suis-je? Question fondamentale. Et ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est que Dieu ne lui donne pas une réponse pour rebooster son estime personnelle. Moi, qui suis-je? Non, mais t'inquiète pas, Moïse, tu as quand même tout le parcours qu'il faut. Enfin, je veux dire, tu as été élevé à la cour du Pharaon, tu maîtrises la langue, tu maîtrises les codes, et puis tu as toute cette expérience de vie, tu as été à la dure aussi. Dieu ne répond même pas à ça. Il n'est pas là pour rebooster son estime personnelle. Il lui dit, au contraire, de détourner son regard de lui-même, moi qui je suis, pour regarder à lui. Moi qui suis-je? Et Dieu lui répond, je serai avec toi. Je serai avec toi. Cette question un peu existentielle, moi qui suis-je? A tellement de personnes, tellement d'entre nous qui luttons avec cette question de notre identité. Parfois on essaie de se forger une identité par notre travail, par nos compétences, par nos exploits. Et on essaie d'y arriver, on essaie de rentrer dans le costume qu'on veut se créer. Et quand on n'y arrive pas, on est désespéré. On est en dessous des attentes qu'on avait ou que les autres attendaient de nous. On essaye de se forger nous-mêmes notre propre identité. Et la réponse biblique, elle consiste toujours à nous détourner de nous pour nous tourner vers Dieu et trouver notre identité en lui. La question n'est pas qui tu es, mais la question c'est qui tu es au travers de l'identité que je vais te donner. Et dans la suite de ce texte, Dieu va prendre Israël pour en faire son peuple, son premier-né. Tu es mon peuple, c'est ça ton identité. Ne te préoccupe pas du reste. Tu n'es pas puissant. Je suis là, je serai ton Dieu. Je te précéderai. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre ça? Dieu nous donne une nouvelle identité, plus besoin de lutter sans arrêt avec qui je suis, est-ce que je suis la hauteur, est-ce que je réponds aux attentes. Pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est en ça que être en Jésus-Christ, c'est une libération, c'est un repos. Mon identité est là. Revenons à Moïse. Moïse, par rapport à toutes ses inaptitudes, reçoit pour seule réponse « Je serai avec toi ». Autrement dit, décentre-toi de toi-même et lève les yeux à moi, pas à toi. Dieu t'appelle d'une manière ou d'une autre à le servir. Dans un service, peut-être au sein de l'Église, peut-être prendre soin des enfants, prendre soin de ceux qui sont dans la douleur, de prier pour certains, d'être celui qui va aider celui qui est en difficulté, qui va venir réparer ton lavabo. Peut-être que c'est un service parler de sa part, transmettre la Bible, peut-être pour transmettre la Bible à des gens autour de toi qui ne connaissent pas. Peut-être que ton service, il est dans ton travail, dans ta sphère professionnelle, où Dieu t'attend pour une œuvre qu'il a prévue, que tu accomplisses. Peut-être qu'il veut que tu sois une personne qui va faire du bien dans ton travail. Du travail le plus simple, peut-être un travail manuel, peut-être un travail d'accueil avec les gens que tu reçois, peut-être un travail plus élaboré où tu vas avoir quelque chose de technique, peut-être quelque chose d'artistique où tu vas exprimer ta reconnaissance et la beauté qui vient de Dieu, que Dieu donne, ta créativité. Dieu a un service pour chacun d'entre nous, peut-être dans notre famille. Nous servons Dieu dans notre famille en prenant soin des nôtres. Tellement de sphères. Et Dieu nous rappelle au travers de ce texte que lorsque Dieu nous appelle à le servir, il ne faut pas nous arrêter à toutes les barrières qui sont devant nous, nos échecs passés. Moïse se sent certainement complètement disqualifié, incapable. Il a échoué lamentablement. Il s'est retrouvé comme un fuyard dans un pays étranger alors qu'il avait une grande mission en tête qu'il pensait que Dieu lui avait donnée. Ne t'arrête pas à cet échec-là. Ne pas s'arrêter à nos inaptitudes, nos incapacités, nos failles, parfois nos failles de caractère, parfois tellement de choses, nos craintes. Moïse est bourré de craintes, on est bourré de craintes. Quand on veut bien se l'avouer. Mais Dieu est là, regarde à Dieu, je serai avec toi. Un commentateur qui dit au sujet de ce passage-là, d'argumentation de Moïse vis-à-vis de Dieu, tout ce qu'il met en avant, son inaptitude de toutes sortes, sa réticence, etc. Il dit, mais justement, Dieu l'a choisi à cause de tout ça. Ouais, tu es inapte. Ouais, t'as échoué. Ouais, tu parles pas bien. Mais je vais t'utiliser, parce que c'est mon plan. Et tout le reste de la Bible nous montre que Dieu œuvre avec des hommes et des femmes aussi imparfaits soient-ils. Et c'est ça qui est magnifique dans le texte biblique, c'est qu'on voit les hommes sous leur vrai jour. Le texte ne cache pas qui est Moïse. C'est un meurtrier. Parce que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. C'est lorsque nous sommes faibles qu'il est fort. À lui soit la gloire. La gloire ne sera jamais à Moïse. La gloire est à Dieu. Et c'est pareil pour nous. C'est pareil pour tout service pour lui. J'aimerais terminer par une citation d'un commentateur, Mautier, qui parle de comment Dieu fait cheminer cet homme imparfait, Moïse, au fil du texte. Quand Moïse est confronté à l'appel de l'Éternel à faire sortir d'Égypte les Israélites, son peuple, il réagit de la manière suivante. « Je ne peux pas, donc je n'irai pas. » Mais le Seigneur parvient à l'amener au point où il déclare plutôt « Je ne peux pas. » Mais lui peut, alors j'irai. C'est l'obéissance de la foi. Que vas-tu répondre à Dieu lorsqu'il t'appelle à le servir ?